Parrainé par George Sand et Sarah Bernhardt, Maurice Rollinat va devenir l'un des poètes les plus influents de son époque, comme nous le raconte cette semaine dans Histoire en Berry, Pierre Bruno d'Argenton-sur-Creuse, amoureux des livres et de Maurice Sand. Le petit Maurice voit donc le jour avenue Déol à Châteauroux, dans une famille bourgeoise originaire d'Argenton-sur-Creuse. Pierre Bruno.
Une famille assez aisée, puisque François Rollinat, son père, est avocat. Il a hérité de la charge d'avocat de son propre père, Jean-Baptiste Rollinat. Maurice est donc né effectivement avenue Déol le 29 décembre 1846. Quand il a 6 mois, son père déménage pour venir rue des Pavillons. Donc en fait, il s'élève dans le vieux Châteauroux. Donc il connaît la petite échelle, la grande échelle pour les Castel-Roussin. Il connaît la rue de l'Inde. Il connaît tous les enfants du quartier. Et effectivement, la famille est relativement aisée quand même. Hein. Ainsi, Maurice prend des cours de piano. Il faut dire que la famille est aisée, mais pas bourgeoise dans le mauvais sens du mot, si vous voulez.
Alors, il est dans un milieu aisé, à la fois empreint de littérature et de politique. Son père, donc, était député de l'Indre à l'Assemblée constituante. C'est un grand ami de George Sand. Ils ont des relations avec le monde, tout simplement.
Tout à fait, puisque, comme vous le rappelez, George Sand est un grand ami de François Rollinat, qu'elle a rencontré il y a quelques années déjà. Lorsqu'il a été invité à Nohant par le mari de George Sand, d'ailleurs, ils deviennent très amis. Et quand George Sand monte à Paris, elle s'arrête fréquemment de dire bonjour à son ami François. On peut penser que Maurice, donc élevé dans ce milieu, connaît les livres. Son père était très cultivé. Et Maurice a une bibliothèque à sa disposition qu'il lit très tôt, sans aucun doute.
Est-ce que c'est un élève brillant à l'école? Est-ce qu'il deviendra un adolescent brillant sur les bancs du lycée?
Oui, alors il va à l'école Saint-Pierre, dans les lieux où il y a la chapelle, si vous voulez, puisque cette école existe toujours plus loin. Et il prend des cours aussi au lycée, qui à l'époque s'appelle tout naturellement le lycée de Châteauroux. On dépendait à l'époque de l'académie de Poitiers, on sait qu'il obtient son bac à 18 ans. Et il va même s'inscrire à la faculté de droit de Poitiers.
Parce que son père veut qu'il fasse du droit.
Son père, François, désire que Maurice possède une situation solide et dans le droit. Si possible. François pense à la reprise de sa charge d'avocat, comme lui l'avait fait de son père. Hein. Donc, on sait que Maurice est avoué rue des Pavillons, pas loin d'où ils habitaient, chez un avoué. Malheureusement, ça se passe pas très très bien. Maurice n'aime pas les contraintes, et donc ça marche pas. Et alors là, son père, François, va donc le mettre dans une étude à Orléans. Alors même à Orléans, on sait que c'est pas beaucoup mieux qu'à Châteauroux. Il reste assez peu de temps à Orléans. Hein.
Entre-temps, son père disparaît.
Son père disparaît sans cesse. Bon, ce qui évidemment peine le pauvre Maurice, qui, faut le dire, avait des relations privilégiées avec son père. Les relations avec sa mère étaient beaucoup plus difficiles. Sa mère était une catholique pratiquante, très rigide, très stricte. Et ça correspondait pas tout à fait au caractère de Maurice. Il monte à Paris, puisque c'était déjà au 19e siècle un peu le rêve de beaucoup de jeunes de Châteauroux, comme d'autres régions, de monter à Paris. Alors, c'est pas tout monter à Paris, il faut trouver une situation. C'est là qu'intervient George Sand. François, donc le père, écrit à George Sand en lui demandant conseil et, si possible, de jouer de son influence. On sait que c'est grâce à George Sand que Maurice trouve une place à la mairie du 7e arrondissement de Paris.
Qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Il a une place tout à fait ordinaire. Hein. Il est, on dirait, gratte-papier, sans être, sans être trop péjoratif. Et on a quelques poèmes de Maurice.
Qui commence déjà à écrire.
Qui commence à écrire et qui sont écrits au dos de papier administratif, si vous voulez. Il faut qu'il retourne la feuille, comme le papier, fallait faire attention. Et il écrit au dos des formulaires.
Et donc, George Sand prend connaissance, en fait, de certains des poèmes de Maurice Rollinat et trouve que c'est très intéressant, l'encourage.
Oui, on a des lettres dans la correspondance qui a été publiée par Monsieur Lubin. On a 2-3 lettres adressées à Maurice où George Sand le conseille, le tutoie, puisque elle l'a vu tout petit. Elle lui dit de faire des poèmes pour enfants, en disant que La Fontaine ou Florian n'ont pas été remplacés. Il y a peut-être une possibilité là-dedans et elle lui dit bien, fais attention. Ton écriture ne va pas te nourrir.
Seulement, Maurice va pas forcément l'écouter, parce que le Maurice, lui, a d'autres idées en tête.
Oui, donc il est à Paris, où son métier le passionne pas beaucoup, d'être employé de bureau à la mairie du 7e. Donc, il sort beaucoup, il fait des connaissances, il va rencontrer Charles Cros, son frère Antoine Cros. Ils sortent, ils s'inscrivent à des clubs, puisqu'il faut pas oublier, après la période de guerre, si vous voulez, ces clubs se créaient. Les jeunes, surtout, ont envie de vivre et de...
S'amuser, quoi.
Et ouais. De s'amuser, tout à fait. Chanter entre eux, boire un coup, évidemment, avec un peu de drogue qui doit circuler aussi, il faut bien le dire. Et donc, ils s'amusent, ils chantent, ils font des tours, ils participent avec Goudot, ils créent les hydropathes. Alors, l'étymologie hydropathe, c'est celui qui aime pas l'eau, qui... mais c'est une moquerie, si vous voulez, c'est une ironie. Et ils se réunissent dans une cave d'un café, là, pour effectivement chanter, boire et déclamer aussi leurs vers qu'ils ont travaillé. Rodolphe Salis, donc, puisqu'il s'agit de lui, qui est natif de Châtellerault, avait créé, il y a peu de temps, le Chat Noir, donc à Montmartre, qui marchait très bien. Et Rodolphe Salis entend parler de Rollina, et c'est donc Rodolphe Salis qui va, on peut dire, débaucher Maurice Rollina, qui le prend aux hydropathes pour l'emmener au Chat Noir. Maurice Rollina chante tous les vendredis soirs et la salle est pleine, il fait un succès. On se pâme devant la voix de Maurice. C'est un spectacle à lui tout seul puisqu'il se met au piano. Faut pas oublier que Maurice, au-delà du poète, il est aussi musicien. Il chante, puisqu'on dit que sa voix, il passait d'un octave à un autre d'une façon très facile.
Il avait une tessiture assez extraordinaire.
Voilà, la tessiture était très grande, hein. On parle de 7 à 8 octaves, ce qui est énorme. Et tout Paris parlait quand même de ce nouveau phénomène, si on peut dire. Et Sarah Bernard a eu vent de tout ça. Elle invite Maurice Rollina à se produire chez un ami en banlieue. Et là, c'est un succès extraordinaire. Toute la presse, dans les jours qui suivent, ne parle que de ça. La prestation de Maurice chez Sarah Bernard. Et il a des offres extraordinaires, puisque il y a des organisateurs de spectacles, puisque ça existait comme maintenant, les impresarios, qui veulent l'emmener en Amérique, en Russie, en je ne sais où, très loin. Il a plein d'offres, mais à contrario, c'est là que Maurice commence à s'apercevoir que c'est pas ce qu'il veut faire, la recherche des honneurs, tout ça, non, c'est là qu'il commence à réfléchir sur ce qu'il fait à Paris.
Maurice va tomber malade, il sera atteint de ce qu'on appelle la céphalgie, d'ailleurs il écrira là-dessus.
Oui, oui, il a des maux de tête très violents qui le gênent considérablement. Maurice donc quitte Paris assez rapidement à l'automne 1883, c'est là qu'il fait le grand pas pour venir dans la région. Et il n'a pas de domicile encore bien fixe chez nous. Il aspire à du repos.
Il est fatigué,
aussi.
Il est malade. Hein,
il est fatigué, et cette vie de Paris un peu trépidante le gêne. Ses maux de tête, évidemment, le gêne beaucoup aussi. Et il aspire à la tranquillité. Donc, il vient dans la région, il cherche un point de chute. Alors, il est difficile, parce qu'il veut pas être à Châteauroux. Il veut être dans la région tout en étant dans la campagne. Et il veut pas être très loin de Bel Air. Hein. Bel Air, c'était la propriété de son père, François, à Saumont, côté d'Argenton, donc une belle gentilhommière que Maurice aimait beaucoup. Bon, sa mère est toujours vivante, mais si sa mère avait été disparue, il serait venu à Bel Air. Donc, il cherche un point de chute et Alphonse Ponroy, l'instituteur de Chantôme, va le guider. Alors, les Cérula, c'est une famille très bourgeoise de Lyon. La famille tout à fait vieille France est un peu rigide, faut bien le dire. Hein. Et d'ailleurs, la famille ne voulait pas de ce mariage. Ils étaient tout à fait opposés à voir leur fille Marie se marier avec ce drôle de gars qui chante et qui fait des poèmes un peu légers. Ça convenait pas aux Cérulas. Hein. Et ils font tout d'ailleurs pour empêcher le mariage. La famille n'est pas très contente, mais le mariage va se faire en 1878. Hein. Maurice avait rencontré Marie Cérulaz à Saint-Julien, du côté de Chambéry, dans la maison de vacances des Cérulaz. Et donc, ils s'aiment vraiment. Hein. Et alors, la famille Cérulaz fait promettre à Maurice, qui prépare son ouvrage « Les névroses », demande à Maurice de retirer les poèmes les plus osés des névroses. Et Maurice, bien sûr, répond « Oui, il n'y a pas de problème ». Et comme vous le pensez, il n'en fera rien. Et quand les névroses vont sortir en 1883, c'est un mini-scandale, parce qu'il y a quand même des passages très osés pour l'époque. Comme j'ai dit, le couple sème certainement d'un réel amour, mais Maurice ne change pas beaucoup ses habitudes. C'est-à-dire qu'il est coureur, il apporte à l'improviste 2-3 copains à la maison pour dîner. Marie Cérulaz a un peu de mal à trouver sa position
dans ce milieu.
Dans ce milieu, qui n'est pas son milieu d'origine, évidemment.
Alors le mariage va tenir longtemps quand même.
Parce qu'il faut bien dire que Rollina n'a jamais divorcé. Parce que d'abord, chez Cérulaz, on ne divorçait pas. Mais alors, ils vont se séparer une première fois. Une fois de plus, Maurice dit oui, oui, sois sûr, reviens, je vais changer, je serai petit soin, je serai là. Et comme vous le pensez, ça marche pas vraiment. Alors la pauvre Marie s'use et un jour retourne à Lyon dans sa famille pour ne plus revenir. Quand Marie sur la s'en va, Maurice rencontre une actrice, Cécile Pouêtre, qui était une belle petite dame qui se produisait sur un théâtre, et il va vivre avec Cécile Pouêtre. Et quand Maurice donc quitte Paris assez rapidement à l'automne 1883 pour venir dans la région, donc il emmène Cécile. Cécile fait partie du... Des bagages, si on peut dire. C'est Alphonse Ponroy, l'instituteur de Chantôme, qui va le guider. Ils vont prendre une carriole de location et ils vont explorer tous les villages alentours, Béthette, Saint-Sébastien, Crozan. Ça dure 2 jours, la recherche. Donc, au bout du 2e jour, ils sont à Fresselines. Le site convient tout à fait à Maurice. Et en bas de Puguillon, il va louer une petite maison au meunier. Mais un jour, il rentre, il voit le meunier en train de battre sa jument. Il s'engueule copieusement et Maurice décide de partir. Et donc, il cherche un nouveau logement, toujours à Fresselines. C'est là qu'il va trouver la Pouge. Alors, la Pouge, c'est sur le plateau, hein, au sud du village. Alors là, il va continuer son œuvre. Il a déjà produit dans les Brandes son premier ouvrage en 1877. Son deuxième ouvrage, qui reste le plus connu...
Les Névroses.
Les Névroses, en 1883. Et le troisième va être l'Abîme. Et il va mener une vie d'ascète et très simple. Et amoureux de la nature, dans ses vers, dans ses poèmes, c'est un observateur pointu des araignées, des crapauds, des lézards, des poissons. Comme son cousin Raymond Rollinat, qui lui deviendra le grand spécialiste des reptiles. Il devient l'ami des pêcheurs, des braconniers aussi un peu. De même, il devient ami du curé. Et tous les dimanches, il tient l'harmonium dans l'église de Fresselines. L'été, il a reçu beaucoup d'amis, hein, le plus illustre est Tom Monnet. Il va à Paris de temps en temps pour régler ses questions avec l'éditeur. Hein. De même, il vient une fois à Châteauroux chanter au cabaret du Pierrot Noir, qui se situait à Place Lafayette, où il y a aujourd'hui la chambre de commerce. Tous ses amis lui demandent « mais revenez », mais il cherche pas à se produire. Et à la fin de sa vie, qui va être dramatique, dans l'année de sa mort, on dit que sa compagne, Cécile, a été mordue par un chien. La pauvre femme meurt. Ça, c'est au mois d'août. Et en septembre, c'est le curé d'Or qui meurt, avec qui il était devenu très ami. Donc Rollinat, d'un point de vue psychique et psychologique, il est effondré, il est mal en point. Alors c'est Alvaux, le peintre et l'héritier des porcelainiers de Limoges, qui s'aperçoit de ça, qui emmène Maurice à Limoges, qui lui fait consulter des médecins. Et c'est aussi Alvaux, qui est extrêmement dévoué, qui l'emmène à Paris par le train pour le faire soigner dans une clinique de la banlieue parisienne, à Ivry. Et malheureusement, ça va pas réussir, puisqu'un matin, en rentrant dans la chambre, une infirmière le trouve décédé. Il est mort un peu isolé parce qu'on parle déjà plus de lui. Hein.
Effectivement, après avoir été adulé, Maurice Rollinat meurt donc à 53 ans. Dans l'indifférence générale, son corps est rapatrié à Châteauroux où il est inhumé par sa mère dans le cimetière Saint-Denis où il repose encore aujourd'hui. Reste aujourd'hui de ce poète ses œuvres qui vont de la nature à la condition humaine et que je vous invite à découvrir avec aussi des poésies cocasses, on va dire ça comme ça. En tout cas, je remercie beaucoup Pierre Bruno, vice-président des Amis de Maurice Rollinat, de nous avoir confié l'histoire de ce grand poète berrichon.